Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polaire la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Au sommaire de cette émission, eh ben, on va dire qu'on a 6 vedettes. 6 vedettes, en gros 6 romans, non en fait 4 romans et puis 2 novellas, parce que je pense que Vagabond se tient plus de la taille d'une novella que d'un roman, Jacques. Voilà.
Donc, une bande dessinée.
Ah, j'ai oublié, et une bande dessinée, donc vedette américaine peut-être, on va dire. Voilà, je vais commencer tout de suite par vous parler d'un auteur dont vous avez déjà entendu parler si vous êtes des fidèles de notre émission. Cet auteur, c'est Thomas H. Cook. Son dernier s'appelle « Sur les hauteurs du Mont Crève-Cœur ». C'est un roman qui paraît, d'ailleurs les romans de Thomas H. Cook paraissent toujours sur au seuil policier, et ce roman est traduit par Philippe Loubla-Delran. Comme je l'ai dit, Thomas H. Cook, c'est un habitué de nos chroniques. Mais c'est un tel plaisir que de retrouver son univers, son écriture fine, ronde, ses récits, qui conjuguent si naturellement le passé et le présent. Ces thèmes, les souvenirs qui nous hantent, cette mémoire que nous pensons manipuler à notre avantage, pauvres petits êtres humains que nous sommes, mais cette mémoire qui se détourne, se tord, pour en gros nous exploser généralement en pleine figure. Je cite Thomas H. Cook, « Ce n'est rien d'autre que le rêve de retourner dans le passé pour effacer tel ou tel événement ou procéder à telle ou telle légère modification qui changerait à jamais le cours de notre existence. Et à mesure que le temps s'écoule et que les erreurs s'enchaînent, cela devient le désir le plus ardent que nous éprouvons. » C'est le cas, tout ce qui vient d'être dit, c'est le cas du personnage principal, Ben, et de son meilleur ami. Pourquoi ce pluriel bien singulier ? Son meilleur ami, il se retrouve pour un enterrement, et lors de cet enterrement, ils vont essayer de déterrer, enfin surtout le meilleur ami, de déterrer le mystère de la mort de Kelly, retrouvé des années plus tôt, sauvagement assassiné, en haut du mont Crève-Cœur, d'où les titres de ce roman. Au-dessus de ce petit village si tranquille, c'est un petit village qui s'appelle Choctaw, et on est en Alabama. Je rappelle que c'est un des états du sud, un état...
Sweet Home.
Voilà, Sweet Home, Alabama. Ben, longtemps après la mort de Kelly, est devenu médecin. Il est resté au village alors qu'il voulait partir, il est devenu médecin. C'est en gros un humaniste bienveillant, d'ailleurs un bienfaiteur de la communauté, et en particulier de la communauté noire. Mais quelque part, serait-ce une rédemption pour expier une faute ancienne ? Pour peut-être tout simplement se dédouaner d'avoir toujours su la vérité sur la mort de Kelly, dont il était amoureux sans jamais vraiment le dire. Ou bien simplement pour oublier son amour de jeunesse, ses premiers émois, cette jeune femme aussi belle qu'intelligente et sensible qui se révoltait alors contre le conservatisme et surtout le racisme de ses condisciples. Je rappelle, on est en Alabama et ce qui s'est passé depuis 2 siècles n'est pas vraiment effacé et il y a encore beaucoup de racisme dans ces états du sud. C'est aussi peut-être pour Ben, ses actes de bienfait, son humanisme, c'est peut-être aussi pour oublier des moments de lâcheté, de couardise, pour ne pas faire de vagues, quand il était moment pour lui d'entrer dans sa société, une société bien codifiée, et puis, à l'aube de sa vie, se permettre un avenir radieux au prix de quelques compromissions, ce que justement Kelly n'avait pas voulu. Et maintenant, on est au crépuscule de son existence, et Ben s'interroge, se souvient, et surtout, détruit des écrans de fumée. L'esprit, les pensées humaines sont tortueuses, et le chemin est long à découvrir nos vérités, nos faiblesses. Et ainsi, on va cheminer avec Ben le long de ce sentier, souvent au bord du précipice, il faut bien le dire, pour qu'au début de la fin de sa vie, si j'ose dire, il puisse enfin comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, tout au moins pour l'admettre, pas vraiment pour s'en souvenir, pour le remettre à la surface. Dans ses romans, Thomas H. Cook explore depuis plus de 30 ans les chemins et l'origine du mal. Et le gros avantage de cet écrivain, c'est qu'il ne lasse jamais. Il invente toujours de nouvelles voies, V-O-I-U-S, de nouvelles voies, V-O-I-X. Sur les hauteurs du Mont Crève-Cœur, donc son dernier roman, c'est une nouvelle réussite. Le récit oscillant constamment entre l'univers intérieur et le destin d'un homme seul, et puis l'histoire d'une communauté dans ce petit village d'Alabama, des conservateurs protestants blancs, vous savez ce qu'on appelle les WASP. On est État du Sud des États-Unis, il y en a beaucoup. Et pour ne pas oublier que sur les hauteurs du Mont Crève-Cœur, il y a des années, une course aux esclaves était organisée. Voilà, ça c'est ce qui va remonter petit à petit à la surface. Donc je rappelle le titre, sur les hauteurs du Mont Crève-Cœur, je rappelle aussi le traducteur, c'est très bien traduit par Philippe Loubla Delran, l'auteur Thomas H. Cook, et c'est chez Seuil Policier. On change
de registre.
Oui, on peut le dire.
De style, d'ambiance, de pays, puisqu'on se retrouve en France, avec un roman de Franck Bouys qui s'appelle Vagabond, qui est publié dans la collection Territory à la Manufacture de Livres. Franck Bouys nous a habitués, enfin, si j'ose dire, à ses romans ruraux, de nature writing à la française, pur sang, plateau, le grossir le ciel. Et il nous montre avec ce Vagabond donc qu'il peut aussi très bien situer son intrigue dans le glauque et le gris sale d'une ville. Le Vagabond, c'est un guitariste de blues, un guitariste de jazz qui joue pour quelques jours dans un club d'une ville sans nom. Enfin, du moins, le nom n'est pas cité. Juste quelques mots.
Donc là, on est au début du
roman. On est au début du roman. Il tendit une main qui toucha la housse de sa guitare, sous laquelle 6 cordes tendues le ramenaient à la veille, à ce club miteux de la rue des Martyrs, où il avait vendu son âme pour 2 tickets resto et un peu plus. Et aussi, les yeux noirs d'une inconnue, sûr qu'il avait assuré, enchaînant les morceaux dégoulinants de sueur, il avait joué comme un dieu qui aurait percé l'essence de la musique, le côté intemporel qu'il devait à Robert, Django, Sonny et Charlet et tous les autres. Voilà, c'est
l'extrait musical, on va dire.
L'extrait musical. Il vit donc, vous l'avez peut-être compris, il vit pour vivre. Non, il joue pour vivre, pardon. Il joue pour respirer, simplement. Il joue parce que sa guitare est désormais sa seule béquille. Une autre petite lecture du début du roman.
Alors, il faut juste le temps de retrouver la page, les petits onglets.
L'homme n'avait qu'une envie, rejoindre le rade de la rue des Martyrs et gratter les cordes et s'y prendre sans jamais manquer d'oxygène. 6 cordes d'acier qui cisaillaient chaque nuit de joie et de douleur ce qui se trouvait en germe dans ce ventre de bois et dans ses doigts impatients. Un guitariste, un vrai. On ne sait pas grand-chose de ce vagabond des villes. Franck Bouys l'appelle l'homme, avec un simple petit H. Il joue, il boit, parfois il dort, il erre aussi dans les rues, entre le petit club pas terrible et son hôtel carrément minable. Il joue pour une femme qu'il a aperçue dans ce club, on l'a vu dans le premier extrait. Il joue aussi pour une autre femme qu'il a quittée, une femme qu'il voit partout, une femme qu'il voudrait reconquérir. Mais était-ce bien ça qu'il veut vraiment? Je ne voudrais pas en révéler trop plus sur ce texte, court texte de 115 pages, je préfère que vous le découvriez vous-même, et vous verrez que cet homme, ce vagabond, même si Franck nous distille au gré des détours et des accords du guitariste quelques informations sur cet homme, qui nous permettent de le comprendre, de le suivre, le temps d'un set, le temps d'un verre, le temps d'un chagrin. Car dans la vie, il n'y a pas que les bluesmen qui s'assoient à un carrefour, un crossroad, pour essayer de voir le diable. Et si dans ce roman, le diable, c'était une femme pour le vagabond?
Ah, la femme fatale des romans noirs, bien sûr, non?
Pas peut-être, vraiment. Pas vraiment, mais si, en fait, peut-être.
Alors, peut-être que pour nos auditeurs, je t'interromps, mais Crossroad, le bluesman qu'il faut peut-être...
C'est Robert Johnson dont il parlait dans l'extrait tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que ce texte de Franck Bouys est, bien que très urbain, est complètement dans la lignée de ses autres romans. En fait, c'est une réédition car il était paru dans la collection Territory, mais aux éditions Écorce en 2013. Mais sa diffusion alors était peut-être un peu plus confidentielle pour que le talent de l'auteur éclate au grand jour. Mais il y a déjà la patte de Franck Bouys, ses méandres poétiques, ses descriptions précises de lieux, d'objets, de la nature. Car on est beau être en ville, Il peut y avoir des arbres, des oiseaux, des nuages, en ville aussi, bien sûr.
Et des musiciens.
Et des musiciens. Un livre qui, en plus de ses qualités propres, nous donnera ou redonnera envie de plonger dans notre collection de disques, de vinyles, de CD ou d'enregistrements numériques de Charlie Parton ou de Robert Johnson.
Et dans les autres romans de Frank Buys, bien évidemment.
Et dans les romans de Frank Buys, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, écouter un morceau de Charlie Parton. Alors ce n'est pas du tout du remasterisé, c'est un enregistrement en 78, en 78 tours, qui date de 1929. Ça gratte, c'est sûr, mais qu'est-ce que c'est bon. Je rappelle que Charlie Parton, lui, il est mort en 1934, donc bien longtemps avant l'invention du CD.
Et du numérique.
Well, I'm going home. Going home, going home, going home. Yeah, I never believe in it. I'm going home, going home, going home. I'll meet you all at a love show. I got it right, got it, got it right.
Le morceau, j'ai oublié de le dire, s'appelle « I'm going home ».
Eh bien, je vais terminer cette première partie d'émission par continuer un peu sur ta lancée, puisque je vais vous parler d'un autre roman d'à peu près le même format, paru dans la même collection, donc la collection Territory, aux éditions La Manufacture de Livres. Et c'est un court roman, une novella, comme on dit, d'Antonin Varenne, et qui s'appelle « 4215 ». En gros, amateur de thriller dépassant les 600 pages, vous pouvez peut-être passer votre chemin, voire accélérer l'émission. Quoique, le texte démontre, s'il le fallait, qu'il suffit parfois d'une centaine de pages pour installer une ambiance, et tu parlais aussi de cette ambiance tout à l'heure, Jacques, une ambiance glauque, poisseuse, pesante, et pour nous faire découvrir avec justesse quelques destins cabossés. Ici, trois personnages, presque une trinité. Marc, le mécano, parti de Guyane avec femmes et enfants, il revient ici pour réparer une grosse machine, un Caterpillar 215, je cite, une bête tout entière, immobile, couverte de boue, son godet posé à terre, appuyé sur sa flèche comme sur un bras fatigué. En gros, c'est l'âme damnée, cette CAT 215, hein, d'où le titre de cette novella.
Comme le killdozer de Sturgeon.
Voilà, je pense qu'il y a vraiment une référence à ça. Donc Marc revient en Guyane, gagner quelques sous, et rendre service à Jules, un de ses potes, mais on pourrait même dire un ami. Ce Jules, c'est un trafiquant d'or, d'ailleurs certainement d'autres denrées plus ou moins illicites, et plutôt plus que moi. En face, il va retrouver, à côté de la CAT 215, Joe. C'est le conducteur de la machine, complètement dingue, ex-légionnaire. On pense au départ qu'il est abruti par les conflits, l'alcool, la solitude dans la forêt. On a donc un face-à-face, habilement détourné par Antonin Varenne, qui place entre deux, à côté d'eux, pas loin d'eux, Alfonso, brésilien, bon chasseur, chasseur d'or, qui semble fuir un passé où la mort rôde. Et donc autour du CAT 215, chacun joue son rôle, ou presque. On s'épie, on s'affronte, on s'évite, on fait front, et on boulonne, évidemment, on répare la machine. Petit à petit, si les antagonismes restent présents, les doutes s'installent. Et dans cette lumière si particulière, les âmes grises prennent le pas sur le noir et blanc, sur le bien, sur le mal. En gros, Marc pourrait être le gentil, Joe le méchant. Ils sont, je cite, de la même génération. Pour Joe, le Rwanda a 20 ans, pendant que Marc fumait du hash en Inde. Je recite, au milieu d'un casting de clandestins fatigués par 3 semaines d'attente et de rhum, aux gueules mâchées et aux yeux rouges. Et puis enfin, il y a Alfonso, le Brésilien. Ange gardien ou assassin? Tueur ou chasseur? Mais tout est brouillé sous la canopée. Et surtout dans le récit minimaliste dégraissé de toute emphase inutile d'Antonin Varenne. C'est donc un récit, comme je dis, court, hein, 96 pages, nouvelle, novella, je ne sais pas vraiment, qui montre, si cela était encore utile, tout le talent de l'écrivain. Alors, je vais reciter quelques-uns de ses titres, hein, 3000 chevaux vapeur, Fakir, ou bien encore Battu, qui était sorti l'année dernière, donc là un gros roman, qui était sorti l'année dernière dans la même collection, cette collection Territory, que l'on dévore vraiment, je crois qu'on a à peu près parlé de tous les titres de cette collection. Voilà, donc je répète, ça s'appelle 4215, et c'est un très beau récit d'Antonin Varenne. On se retrouve pour la deuxième partie d'émission.